Bonsoir les distordus, ici Émile de Distorsion. Aujourd'hui, on a une grande nouvelle pour vous. Sachez qu'on a maintenant notre propre bande dessinée en collaboration avec Low Reader.
Grâce à notre fidèle partenaire et illustrateur Ron du label 619, Distorsion s'associe à la série de bandes dessinées d'horreur Low Reader, le temps d'une édition spéciale sur les histoires étranges de l'ère numérique.
Trois histoires de fiction illustrées par des futurs stars de la BD y figurent. Nous abordons des thèmes comme les jeux vidéo hantés, les Red Rooms sur le Dark Web et le pouvoir des influenceurs toxiques dans trois histoires illustrées par Pivoine, Rourse et Petit Rapace et scénarisées par Ron lui-même.
Comme à notre habitude, vous trouverez plusieurs autres surprises dans cette BD de plus de 100 pages.
Sachez que la BD est disponible dès maintenant chez tous les bons libraires d'Europe et elle sort au Québec le 30 novembre partout. Vous pouvez la précommander dès maintenant sur le site leslibraires.ca.
Âme sensible, s'abstenir. Sur ce, bonne lecture et bonne écoute.
C'est parti!
Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur...
...with stolen property, that it was two crazily naked people in love. I mean, we were naked all the time and filming each other and being silly, but those tapes were not meant for anybody else to see. And I've not seen it to this day.
Des histoires étranges de l'ère numérique.
Dans notre monde connecté, la facilité avec laquelle nous pouvons enregistrer et partager des moments intimes
a transformé la sphère privée.
Les sextapes, autrefois cachés, se retrouvent maintenant exposés sur Internet, entraînant plusieurs scandales, surtout auprès de célébrités. La limite entre la liberté d'expression et le droit à la vie privée.
De Pamela Anderson jusqu'à Hulk Hogan, en passant par Kim Kardashian et même Marilyn Monroe, tous y ont eu droit.
Comme s'il s'agissait d'un rite de passage.
Ce soir, nous retraçons l'histoire des sextapes à l'ère numérique et comment Internet a transformé l'intimité des célébrités, parfois pour le pire et parfois pour le meilleur. Seb, comment ça va ce soir?
Ça va bien, et toi, Émile Gauthier?
Ça va très bien. C'est un peu notre épisode de Saint-Valentin. Hein?
Oui.
On l'enregistre la semaine de la Saint-Valentin.
Exact.
On s'est dit, hey, ça serait cool de retracer un peu l'histoire des sextapes, parce que, pas juste pour le côté voyeur et
non.
Mais ça a eu des vraies incidences sur notre monde numérique. Vous allez voir, on va vous parler de plusieurs histoires ce soir, mais entre autres, un des cas les plus hallucinants, c'est le cas de la sextape de Hulk Hogan.
Exact.
Qui a vraiment... Il y a eu un procès contre Gawker, qui était à l'époque un géant des médias numériques. Il y a même, apparence de complot derrière ça.
Exactement.
Vous allez voir, c'est assez hallucinant. Donc, certaines sextapes ont carrément eu des conséquences sur le monde dans lequel on vit, en fait.
Ah ben oui, ben juste à penser pour les familles immédiates de ces gens-là, ou ces gens-là que souvent veulent pas que leur sextape soit dévoilé, ça a cet impact-là. Mais
oui.
Mais ça, en même temps, c'est qu'avec l'Internet, contrairement à une époque où on était en VHS, c'est beaucoup plus facile de se propager et tout ça.
Ben
c'est,
oui.
Et c'est à cause des juridictions aussi, c'est difficile parfois de... On le dit, hein, une fois que c'est en ligne, c'est un peu écrit à l'encre.
Mm-hmm.
C'est un peu la même chose pour ce type de vidéo-là, malgré toutes les injonctions. Ils finissent toujours par rester à quelque part sur le web. Donc, on dirait que ça disparaît jamais, même si tu t'intentes des poursuites.
Exact. Puis, il y a toujours la question de est-ce que parce que tu es une célébrité, tu mérites d'avoir ta vie plus exposé que les autres. Je veux dire, s'il y avait une sextape de toi ou de moi, Seb, qui sortait à quelque part, tout le monde s'en foutrait. Mais quand c'est des vedettes très connues, on dirait qu'il y a comme une normalité qui autour de ça, comme si vu que c'est des gens connus, ben ils ont pas droit à leur intimité au complet. Tu sais.
Exact, exact. Puis c'est même un des arguments de Gawker, là, cette ligne-là.
Oui.
Que ça fait partie que les gens ont le droit de savoir, mais... Moi, personnellement, c'est très limite. Vous allez voir, il y a des éléments qui sont, cités. C'est malaisant à certains moments. Là.
Yes. Donc, c'est un épisode un peu différent. On parle moins d'une histoire en tant que telle. Il y a certaines histoires sur lesquelles on va focusser, mais Seb va nous retracer un peu l'historique des sextapes. Ça risque d'être très intéressant. On aurait bien voulu avoir une commandite d'Eros et compagnie pour cet épisode-là, mais bon, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Ceci dit, on a une tournée de bière, donc on n'a pas les mains vides.
Oh non! Et un gros merci à Tom Chicoine qui est venu personnellement nous porter de la bière qui vient de Emporium Microbrasserie. Hein, il travaille là-bas. Il est venu nous porter la Limbo, entre autres, qui est une IPA New England qu'on adore, avec des houblons de Riwaka, Nelson Sauvin et Citra. Et, délicieuse, 5,5%. C'est pas la plus forte en alcool des New England. Donc, elle est délicieuse. Puis, il nous en a aussi offert quelques autres de cette collection. Là. Donc, merci énormément, Tom. Très apprécié.
Oh yes, Charlotte, à toi, Tom. On a aussi une review 5 étoiles sur Apple Podcasts qui nous vient de Erythropus de la Suisse.
Oui.
Shout-out à nos auditeurs et auditrices suisses. On sait que vous êtes bien nombreux et nombreuses. Il nous dit « Bonjour, Seb et Émile. Un grand merci pour votre super podcast. Je l'écoute depuis la Suisse et j'espère qu'un jour, on vous accueillera. Nous avons découvert Distorsion dans une interview de Pacôme Tilleman. Ce dernier vous cite comme inspiration pour la réalisation de sa si incroyable série de vidéos Infernet, produite par le média Blast. Eh bien, shout-out à toi aussi, oui, Pacôme. Hein. Je suis tombé une fois sur cette série-là.
Okay.
Très intéressante d'ailleurs. Donc, shout-out à toi et qui sait, peut-être qu'un jour on aura la chance de faire connaissance.
Ah oui, absolument. Je dois regarder ça.
Yes. On vous rappelle que si vous voulez plus de distorsion, notre Patreon est là parce qu'on a des super after-shows presque pour tous les épisodes de trois, quatre dernières saisons.
Oui.
Donc, il y a du stock. Si vous arrivez sur Patreon aujourd'hui, il y a énormément de bonus qui vous attendent. Il y a des épisodes qu'on a sortis sur Patreon qu'on n'a pas sortis ailleurs.
Exactement.
Un épisode secret par saison. Mm-hmm. Donc, ça vaut vraiment la peine. Shout-out à vous. On a des concours aussi. Et récemment, vous savez, on a sorti une BD avec le label 619, Low Reader. En fait, trois histoires de l'ère numérique tordues, inspirées un peu de faits réels. Mais là, vraiment, on s'éclate en fiction. Donc, shout-out à Run. Si vous voulez vous la procurer, c'est partout en Europe. C'est un release européen surtout, mais on s'est assuré qu'il y en avait des tonnes de copies au Québec. Donc,
oui,
il y en a partout dans vos librairies de quartier, sur leslibraires.ca,
oui,
Renaud Aubry, Archambault et autres, les plus gros. On est là aussi. En Europe, c'est la FNAC, c'est partout. Les librairies spécialisées en BD, allez-y, hein, c'est toujours un plaisir d'y aller. Et qui sait, peut-être qu'un jour, Distorsion fera d'autres bandes dessinées parce qu'on a vraiment trippé. Puis justement, ben, en parlant de contenu bonus, de quoi tu nous parles en after show aujourd'hui, Seb?
Oui, je vous parle du célèbre cas qu'on appelle le Celeb Gate ou le Fappening, en fait.
Oh shit!
Oui, exact. Ils ont chacun. C'est le même cas. En fait, c'est où est-ce qu'il y a eu des célébrités en 2012 qui ont été hackés là, via leur compte iCloud, Google, et que justement qu'il y a eu un énorme leak de ces photos-là.
De contenu intime.
De contenu intime, là, vraiment, que ces gens-là avaient sur leur téléphone, mais aussi des agendas, les SMS, etc. Là. Donc, un très gros cas là, qu'il y a eu, c'est des centaines de personnes qui ont été impactées par ça. Donc, on va vous parler de ça dans l'after show.
Oh yes, Distorsion tombe dans le scandale hollywoodien aujourd'hui.
Oui, c'est vrai.
Là-dessus, Seb, est-ce qu'on est prêt à se plonger dans l'épisode de ce soir?
Oui, mais avant de plonger dans notre épisode, Émile, un mot sur NordVPN, notre fidèle partenaire. Je sais pas si c'est la même chose pour toi, mais il me semble que cet hiver, j'ai jamais eu autant de tentatives de scam et d'arnaque en ligne. Là.
C'est l'enfer.
Ça n'a pas de bon sens, honnêtement. Là.
J'ai réinstallé WhatsApp récemment.
Oui,
c'est des appels téléphoniques à n'importe quel moment du...
du jour ou du soir. Il n'y a rien au bout de la ligne. En même temps, c'est des faux textos de banque, faux appels, des faux textos de Amazon. Mais évidemment, c'est pas Amazon. Je n'ai plus de compte Amazon depuis longtemps.
Oui, c'est vrai.
Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas cet hiver.
Ah oui, on a plein de problèmes. Donc, il est vraiment important, là, justement, pour empêcher là, de vivre ce calvaire-là. On peut protéger ses informations et sa vie privée avec NordVPN parce que ça vous permet de naviguer là, de manière anonyme et sécurisée parce que principalement, là, ça masque votre adresse IP. Ça fait comme si vous étiez une autre personne. Puis en plus de ça, ça crypte vos données. Donc, que vous soyez sur un ordi ou un cellulaire, peu importe ce que vous êtes, vous pouvez l'utiliser, NordVPN.
Exact. Puis nous, ben, Distorsion, on l'utilise pour faire des recherches. Des fois, on doit avoir accès à un documentaire qui est diffusé sur la BBC, France TV. Oui. Donc, ça nous aide à avoir accès à ces plateformes-là. Mais en plus, moi, je conseillerais, là, de nos jours, on dirait que j'ai entendu tellement d'histoires à propos de gens sur Twitch qui streament ou encore d'influenceurs en ligne qui se font harceler ou même si vous êtes camgirl ou camboy ou vous faites du OnlyFans ou tout ça, dans les mondes où on est toujours en ligne, où il y a des orbiters, où il y a des gens qui peuvent être appelés à nous stalker un peu, on dirait que j'aurais toujours tendance à recommander un VPN. C'est important si vous ne voulez pas justement vous faire harceler en ligne, que des gens débarquent chez vous ou autre ou réussissent à trouver une faille dans votre système. Donc, c'est pour ça aussi NordVPN. Non seulement il y a plein de bénéfices à avoir accès à des plateformes et autres, mais si vous travaillez beaucoup en ligne, c'est essentiel de bien vous protéger.
Oh oui, tu as raison, parce que c'est assez facile d'une certaine façon de pouvoir connaître l'adresse IP de quelqu'un si on veut vraiment, là. Donc, c'est pour ça que NordVPN, ça va devenir votre allié pour garantir votre sécurité en ligne. Puis pour bien démarrer, là, on a une offre, une promo spéciale. Si vous vous rendez sur nordvpn.com/distorsionvpn, vous allez bénéficier d'une importante réduction et de 4 mois gratuits du service.
Yes, ça vaut vraiment la peine, comme tu dis, Seb, surtout avec la garantie de remboursement de 30 jours qui vous offre une tranquillité d'esprit. Même en cette période, justement, où on se fait scammer, où il y a énormément de tentatives d'arnaque.
Oui, exact.
Et alors, Seb, maintenant, est-ce qu'on est prêt à se plonger dans notre histoire passionnante d'aujourd'hui?
Oui, monsieur.
C'est parti.
Aujourd'hui, on se penche sur les sextapes de stars à l'ère du numérique. Mais on va voir comment des cas célèbres ont changé la donne sur Internet et ont posé de gros points d'interrogation là, sur les limites de la liberté d'expression. Tout d'abord, on va décortiquer un peu l'expression « sextape ». Ça fait référence à « tapes hein, », qui est un terme qui évoque une cassette, qui trouve son origine à l'époque où le magnétoscope, format VHS, régnait sur le marché de la vidéo domestique. Introduite dans les années 70 par JVC, qui est Japan Victor Company, la technologie VHS, Video Home System, a marqué une révolution dans la manière de consommer le contenu vidéo à domicile en rendant l'enregistrement vidéo à la fois pratique, mais aussi accessible au grand public. Elle a permis aux utilisateurs de visionner des films, d'enregistrer des émissions de télévision pour les voir plus tard et de partager des vidéos de famille. Avec le lancement du premier lecteur-enregistreur VHS en 1976 au Japon et en 1977 aux États-Unis, ça fait quand même un certain temps, là, c'est avant nos naissances.
Ben oui.
La VHS a rapidement gagné en popularité, surpassant d'autres formats là, concurrents tels que le Betamax de Sony, là, que tu dois te rappeler, principalement en raison de sa plus longue durée d'enregistrement, de son coût inférieur, mais aussi... C'est ce qui a gagné. Il y avait une meilleure stratégie de commercialisation à l'époque.
Oui, même si le bêta était de meilleure qualité. Oui, là, dans les studios de télé, je pense qu'on a dû utiliser des grosses cassettes Betamax jusqu'à tout récemment, j'ai l'impression.
Parce que
la qualité était là. Puis, il y avait tellement investi dans les grosses caméras à l'époque qu'ils les ont gardées longtemps.
Ah ben oui, je peux comprendre. Le succès du VHS a été alimenté par la croissance des clubs vidéo qui ont rendu les films accessibles à un public plus large. Les gens pouvaient louer des films pour les regarder chez eux, ce qui était une révolution culturelle à l'époque. Tout au long de son apogée, le VHS a vu plusieurs améliorations techniques, notamment en termes de qualité et d'image et de son.
Le déclin de la technologie VHS a commencé à la fin des années 90, au début des années 2000, lorsque le DVD est arrivé. Là, il offrait une meilleure qualité d'image, de son, un accès plus facile aux différentes parties du film là, grâce au menu des DVD. Là, c'était quand même une révolution. Ensuite, il y a eu les enregistreurs de DVD. Moi, j'avais ça aussi, là, avec un disque dur, plus pouvoir enregistrer sur les DVD. Là, c'était magique. Et les systèmes de vidéo numérique, là, comme TiVo, qu'on a peut-être moins connu au Québec, mais quand même, ont également contribué à rendre le VHS un obsolète. La commodité des formats numériques, combinée à l'essor de l'Internet haut débit et le streaming vidéo, a finalement éclipsé le VHS. La production de lecteurs-enregistreurs neufs a cessé au milieu des années 2000, marquant officiellement la fin de l'ère VHS.
Puis il y a un retour quand même qui se fait hein, auprès de justement des jeunes de notre époque, la nouvelle génération, le même, je ne sais pas c'est laquelle après la génération Z, là, après les Gen Z, mais il y a un retour qui se fait vers cette esthétique-là là, des années 80-90, un retour des caméscopes avec des cassettes, même mini-DV à l'intérieur, des mini-cassettes VHS justement, mais des petites, les caméras qui étaient utilisées dans les vidéos de skate d'ailleurs des années 90-2000 reviennent. Sont rendus aussi chers que dans le temps, presque à acheter.
Ah, oui,
donc, il y a vraiment un retour, un peu comme le flip phone qui revient aussi. Les caméras point and shoot, les caméras film un petit peu cheap des années 90-2000 font un gros retour. Donc, un léger retour du VHS.
Ah, c'est drôle parce que j'en ai eu une à un moment donné, un caméscope justement avec les petites cassettes. Puis, mon Dieu, que tu viens à tout documenter.
Comme les Walkman reviennent, hein, les Walkman CD, Walkman cassette reviennent aussi. Donc, un retour vers cette technologie-là. Là.
Ouais, c'est drôle quand même. Même hier, tard, j'écoutais Retour vers le futur. D'une fois, j'aime ça le regarder tard le soir, puis je voyais qu'il y avait un JVC avec un magnétoscope qui enregistrait dedans. Oui. Donc, il y avait même un placement de produit à cette époque-là, dans les années 85. Donc, je trouvais ça drôle. Là, on a parlé du mot « tapes », mais là, on va vous parler du mot « sexe », en fait.
Oh, tu vas nous expliquer c'est quoi le sexe. Tu vas nous mansplainer
Exactement. Ça commence à l'enfance. Non. Plus sérieusement, l'introduction du VHS, comme je disais, a transformé la vidéo pour la rendre accessible au grand public, mais pour aussi capturer des moments intimes, dont des activités sexuelles. Donc, c'était pas juste des activités familiales que les gens se mettaient à filmer. Avant ça, là, c'était vraiment compliqué de vouloir te filmer. C'était coûteux, c'était complexe, puis c'était à peu près inaccessible pour la majorité du commun des mortels. Donc, encore une fois, la simplicité et l'abordabilité du VHS ont permis, avec sa démocratisation, en fait, d'amener beaucoup plus d'enregistrements de sextapes. Donc, d'une certaine façon, s'exposer un peu plus. Et c'est dans les années 80, justement, que l'essor du magnétoscope a aussi facilité l'accès à la pornographie sur VHS. Donc, ce qui a rendu ce contenu-là vraiment disponible pour beaucoup, beaucoup de gens à domicile. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, une fois qu'on a bien compris l'expression « sextape », on se lance dans notre histoire, Émile.
Oh oui.
Nous sommes le 4 octobre 2012 à New York. Il est 14h15 et l'éditeur en chef du site Gawker, A.G. Dolario, vient de terminer la rédaction d'un nouvel article qui, croit, va attirer les masses. Il appuie sur la touche « Envoyer » et publie son texte, très clickbait, à la une du site. Et là, je vous donne le titre en anglais et en français. Et c'est un long titre. « Even for a minute, watching Hulk Hogan have sex in a canopy bed is not safe for work, but watch it anyway. »
Très clickbait.
Oui, vraiment. Puis je vous le traduis en français. Même pendant une minute, regarder Hulk Hogan faire l'amour dans un lit à balles de quin n'est pas sûr pour le travail, mais regardez-le quand même. C'est du Gawker. Là. C'est vraiment ça. Il débute son texte ainsi. Parce que l'Internet nous a permis d'être plus facilement des voyeurs et des déviants sans vergogne, nous adorons regarder des personnes célèbres faire l'amour. Nous regardons ces images parce que c'est quelque chose que nous ne sommes pas censés voir.
Exactement.
Mais il a raison. C'est vrai que l'humain, cette curiosité-là, c'est ça aussi.
Ah, puis d'avoir vu ça, c'est moi, je me rappelle pas d'avoir vu ça dans le temps. Je l'ai jamais vu, cette sextape-là, pour être franc avec vous. Mais c'est la dernière chose que je voudrais voir, c'est Hulk Hogan dans un moment intime.
J'ai lu toutes
c'est
les
tellement une vedette de notre enfance.
Ben,
pour les petits gars, c'était un peu comme un super-héros. Là, t'as pas envie là, de voir... Non. T'aurais pas envie de voir Batman ou Hulk, tu sais, ou Thor.
Oui, exact.
Peut-être que certains, oui, là, mais moi, on dirait que ça me gâche l'image de...
Oui, du personnage.
Ça me briserait mentalement.
T'as raison. En fait, même moi, je l'ai pas regardé. J'ai juste lu toutes les retranscriptions des différentes sextapes de Hulk Hogan, mais j'ai préféré ne pas aller voir. Je suis juste allé voir. Ça était facilement disponible sur des sites comme Pornhub et tout ça. Et non, quand même, ils ont wipé. Sur le web de surface, du moins, si tu vas sur les sites légaux, c'est plus dur un petit peu à trouver. L'éditeur détaille la réception secrète d'un DVD montrant le lutteur professionnel américain Hulk Hogan et Heather Claim, qui est l'ex-femme du célèbre DJ de radio nommé Booba the Love Sponge, dans une sextape, qui est aussi un excellent ami de Hulk Hogan. Livré anonymement, sans exiger d'argent ni de crédit ou quoi que ce soit, la demande unique de la personne anonyme qui a envoyé le DVD à Gawker était seulement qui visionne la vidéo, en fait. Il n'y avait pas plus de demandes que quoi que ce soit par rapport à ça.
Dans le but de faire du bruit avec ça.
Oui, quasiment. Exact. Le blog Gawker, réputé pour son contenu souvent controversé, a minutieusement examiné et partagé une portion de la sextape, nous décrit dans le moindre détail le contenu du DVD et décide d'en publier une séquence vidéo d'environ 90 secondes, dont 10 secondes d'activité sexuelle explicite. Pour atténuer l'impact de la divulgation de la vidéo, AJ, l'éditeur en chef, souligne qu'elle avait déjà été partiellement révélée par TMZ et le site de Dirty au printemps 2012, qui avait non seulement rapporté son existence, mais aussi publié des captures d'écran. Face à cette pré-exposition, il argue d'une moindre violation en fait, de la vie privée, notant que Hulk Hogan avait lui-même initié des actions légales arguant d'un enregistrement sans son consentement. Immédiatement après la publication de la vidéo par Gawker, Hulk Hogan, de son vrai nom, parce que c'est pas ça son vrai nom, c'est Terry Bollea. Vous allez voir, on va sûrement se promener entre Terry et Hulk Hogan là, travers.
Ça va devenir flou, là, vous allez voir. Là.
Reçoit un appel d'un proche lui mentionnant que la vidéo a fait surface sur le web. Conscient de l'existence de rumeurs depuis mars propagées par TMZ et d'autres médias, il est tout de même surpris et dévasté par l'audace de Gawker de diffuser un long extrait explicite de la sextape. Il contacte alors immédiatement son avocat.
Et vous n'avez pas idée jusqu'où ça va aller, cette histoire-là. Nous sommes maintenant le lendemain, Seb, le 5 octobre 2012. L'avocat personnel de Hulk Hogan, David Houston, demande à Gawker de retirer les clips de la sextape qui, selon lui, ont été filmés à l'insu de Hogan. Gawker refuse dans un premier temps. Houston envoie donc deux lettres à Gawker dans les jours qui suivent la publication des clips. Cependant, le site refuse toujours de retirer les extraits vidéo de son site. Gawker affirme qu'il exerce son droit au titre du Premier Amendement, affirmant que, parce que Hogan est une personnalité publique, sa vie sexuelle est une question d'intérêt public.
Ouais.
Donc là, c'est place à débat.
Oui.
Entre-temps, Terry, alias Hulk Hogan, donne une interview avec Howard Stern, l'animateur de radio le très controversé, à propos de la vidéo. Puis là, dans cette interview-là, là, c'est un peu bizarre le ton. Là. C'est très des boys dans un vestiaire de hockey qui discutent. Là. Il révèle, Hulk Hogan, à Howard Stern que la cassette a été enregistrée il y a 6 ans, à une époque où il était encore marié à Linda Hogan, sa femme, mais il était séparé. Il indique que la femme dans la vidéo, c'est Heather Claim, qui est l'ex-épouse là, de Baba the Love Sponge, là, qui est un animateur de radio un peu controversé américain. Puis que Baba lui-même avait donné la permission pour l'acte sexuel. Donc, c'est bizarre un peu. Là. Tout ça, ça serait consentant. Il n'y aurait pas, cocufié son ami. Là. Il se serait... tout ça serait d'un commun accord.
Oui, parce que souvent même, Baba est dans la vidéo. On le voit se promener. Il se promène, puis des fois, il parle. Il parle à Terry ou à Heather. Tu sais, c'est vraiment drôle de tout et de rien. Donc, puis à un moment donné, il s'en va, puis il dit « Amusez-vous ».
Oui. Le 9 octobre maintenant... Hulk Hogan sollicite l'aide de la police pour identifier le responsable de la fuite de sa sextape. Après la mise en ligne de la vidéo, son avocat, David Houston, contacte la police de St. Petersburg en Floride, affirmant qu'enregistrer et diffuser la vidéo sans le consentement de Hogan constitue un crime. Toutefois, en raison de la prescription de l'infraction liée à l'enregistrement illégal de 2006 et de la diffusion impliquant plusieurs États, relevant ainsi de la compétence fédérale, la police locale ne peut pas intervenir.
Non.
Hogan se tourne donc vers le FBI, imaginez-vous donc, là, espérant que l'agence puisse identifier et poursuivre les responsables de la fuite. Son avocat signale que Hogan prévoit de rencontrer des agents du FBI le lundi suivant. Également, ce refus incite Hogan à engager d'autres avocats et à préparer une poursuite. Pour intensifier son affrontement juridique avec Gawker, Terry Bollea engage Charles Harder, qui est un autre avocat de Los Angeles cette fois-ci, spécialisé dans la défense des droits des célébrités.
Ouais.
Il y a eu des clients comme George Clooney. Le 15 octobre 2012 maintenant, soit 10 jours après la demande de retrait de la vidéo, Harder initie une procédure judiciaire contre Gawker en Floride visant à faire valoir les droits de Terry Bollea et à contester la diffusion non consentie de contenu personnel. Et maintenant, vous allez voir, on va parler de Fred Durst.
Oui, exact.
De Limp Bizkit.
Yes.
On dirait que Gawker a oublié qu'il a déjà été poursuivi dans le passé pour une histoire très similaire.
Oui.
Le 2 mars 2005, le leader du groupe de musique Limp Bizkit, Fred Durst, 2005, là, on était dans leur peak,
oui,
là, à Limp Bizkit.
Oui.
Poursuit lui aussi Gawker et d'autres pour la diffusion non autorisée d'une sextape lui aussi. La vidéo, enregistrée en 2003 avec consentement, était destinée à rester privée. Contacté par un propriétaire d'entreprise pornographique, son manager, Peter Katsis, refuse toute offre commerciale. L'affaire se conclut par un règlement confidentiel à l'amiable pour 70 millions de dollars.
Quand même.
Cependant, Fred Durst s'est excusé publiquement auprès de Gawker pour avoir initialement blâmé le site pour la fuite de sa vidéo intime. En réalité, la vidéo avait été volée par un pirate informatique surnommé T-Mobile Terrorist.
Oui.
Oh, qui avait revendiqué la responsabilité de plusieurs cyberattaques, là, y compris le piratage du téléphone portable de Paris Hilton.
Ouais.
Parce qu'elle aussi, elle a eu droit à une sextape, Paris.
Oui, oui, exact. Puis c'est comme un dérivé, ça, du Celebgate un peu. Fred Durst a été pogné là-dedans, mais... Tu sais, c'est excusé à Gawker, mais Gawker a quand même diffusé la vidéo, là. C'est qu'au début, il pensait que c'était eux qui avaient, comment dire, eu la source ou qui l'avaient reçue, mais c'était pas eux. Donc, il s'est excusé là-dessus, mais ça n'a rien enlevé au jugement ou quoi que ce soit. Mais ça, c'était un peu bizarre, là, quand je lisais un peu le fil des événements qui s'excuse une fois que tu as gagné une poursuite.
En tout cas, j'ai appris qu'il y avait un autre sextape que j'aurais pas envie de voir, c'est celle de Fred Durst.
Oui, non, moi non plus, je l'ignorais totalement qu'il y avait ça. Puis c'était avec sa blonde de l'époque, là, la personne.
Puis là, on vous parle de Gawker depuis tantôt, mais Seb, dis-nous donc un peu plus en détail ce que ça représentait à l'époque, parce que nos distordus un peu plus jeunes, sans doute, savent même pas c'est quoi Gawker, parce que c'est beaucoup moins sur le paysage actuel.
Oui, oui, t'as 100% raison, même aujourd'hui, il n'existe vraiment plus. Gawker, G-A-W-K-E-R, lancé en 2003 par Nick Denton et Elizabeth Spears, s'est rapidement imposé comme une plateforme médiatique américaine incontournable, mélangeant le potin et journalisme avec une audace et une irrévérence caractéristiques. Focalisé sur les personnalités, la culture urbaine et l'univers médiatique, le site brillait par son style direct et son humour incisif, n'hésitant pas à aborder des sujets souvent ignorés par les médias traditionnels. Acteur majeur de l'écosystème numérique, Gawker a redéfini la diffusion des informations et des scandales, influençant profondément le journalisme en ligne. Atteignant plus de 23 millions de visites par mois en 2015, toutefois, sa tendance à flirter avec la controverse va jouer contre elle. On s'en reparle plus tard. Nous nous transportons désormais en 2016, pour le début du procès. Il est important de noter que Gawker a persisté pendant plus de 6 mois après la demande initiale, conservant la vidéo pendant cette période, laquelle a accumulé plus de 7 millions de vues. Donc, le temps qu'il agisse, le mal était
c'est
fait.
Clair. Puis Gawker, si je peux me permettre aussi, oui, Seb, oui, oui. Ils avaient fait un peu leur, leurs armes. Eux, il y avait un blog, si je ne m'abuse, oui, qui était Valley Wag.
Oui, exact.
Où
oui.
Ils parlaient d'histoires queer reliées à Silicon Valley.
Oui, oui.
Ça avait fait beaucoup parler parce que il y a évidemment une grande
communauté
queer, LGBTQ+, dans cette région-là, évidemment, exact. San Francisco et tout ça. Mais Silicon Valley, étant ce qu'elle est, c'est très tabou.
Oui.
C'est un monde d'affaires, un monde d'innovation.
Ouais,
puis, en même temps, oui, il y a de l'innovation, mais en même temps, on dirait que c'est très traditionnel dans la façon de penser. Donc, déjà là, ça chatouillait là, les CEO puis les boss de grandes compagnies de Silicon Valley d'avoir un peu un journal en potin, en potin sur la communauté queer parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de gens dans les startups, dans le monde des startups, dans le monde des de l'innovation qui appartiennent à cette communauté-là, mais qui le cachent. Donc, ils dérangeaient déjà avec ce blog-là. Donc, par la suite, quand Gawker est devenu plus gros, ben c'est pas tout le monde qui les aimait à Silicon Valley puis dans le monde des médias.
Oui, oui, puis on va en reparler un petit peu plus loin, un peu plus tard, là, justement, d'un événement qui a eu lieu sur Valley Mag. Merci de la précision. Là, on va aller au procès. Et pourquoi c'était en 2016, finalement, malgré tout, là, c'est loin dans le temps, c'est que initialement le procès était prévu pour juillet 2015, mais il a été reporté là, de près d'un an. Donc, on se dirige le 7 mars 2016. Le procès de Hulk Hogan contre Gawker commence devant un tribunal d'État à Saint-Pétersbourg, en Floride. Hogan, qui allègue que Gawker, qui est basé à New York, a porté atteinte à sa vie privée en publiant un clip vidéo de lui ayant des relations sexuelles avec la femme de son ami, témoigne que la diffusion de la vidéo par Gawker a bouleversé son monde. Hogan et ses avocats demandent plus de 100 millions de dollars de dommages et intérêts à Gawker, à son PDG Nick Denton et aussi à l'ancien rédacteur en chef A.G. Dolario, celui qui a écrit la publication en tant que telle. Mais là, on parle, Émile, on parle de Hulk Hogan, mais j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de sa carrière de lutteur, là, question de nous faire revivre un peu notre enfance.
Avec grand plaisir. Terry Jean Bollea, mieux connu sous le nom de Hulk Hogan. Charlotte à André Beaupré, notre monteur, qui est un gros fan de lutte aussi. D'ailleurs, André, corrige-nous là, si on dit des mauvaises infos sur Hulk Hogan. Gêne-toi pas. C'est une icône mondiale de la lutte, là, le catch, comme on appellerait en Europe. Là. Il est né le 11 août 1953 à Augusta, en Georgie. Il est devenu l'un des lutteurs les plus reconnus et les plus influents de l'histoire, transformant la lutte là, en un phénomène de la culture populaire durant les années 80 et 90. Sa carrière, qui s'étend sur plus de 4 décennies, est marquée par d'innombrables championnats, rivalités, des rivalités là, mémorables entre lutteurs et son rôle dans la popularisation là, de la lutte là, à travers le monde.
Oui, vraiment.
C'est avant ça, la lutte de ce type-là, de catch, c'était des tournées qui se déroulaient dans des petites salles aux États-Unis, sur la côte est, sur la côte ouest. Les lutteurs avaient de la misère à en vivre, c'était beaucoup plus un hobby, mais il y avait quand même une scène importante. Mm-hmm. Tandis qu'avec l'arrivée de Hulk Hogan et de d'autres lutteurs là, de cette époque-là, de la Golden Age là, de la lutte, c'est devenu carrément un star system. Là, ils ont commencé à jouer dans des arénas, puis je pense que certains lutteurs ont eu des meilleures conditions aussi de travail. Là. Puis les lutteurs sont devenus des célébrités, puis Hulk Hogan, ben écoute, c'est devenu des figurines pour enfants, devenu une marque incroyable.
Des vitamines, ça a été le meilleur vendeur de vitamines, de multivitamines pour enfants pendant des années. Je disais ça, j'étais mon Dieu.
Ah non, exact. Tandis qu'avant, la lutte était beaucoup plus underground, si on veut. Là. Lui a commencé sa carrière de lutteur à la fin des années 70, après avoir été formé par Hiro Matsuda. Il a fait ses débuts dans la Florida Championship Wrestling avant de rejoindre la WWF, qui maintenant c'est la WWE, pour la première fois en 79. Cependant, c'est au début des années 80 que Hogan est devenu une superstar nationale. Après avoir remporté le championnat de la WWF contre The Iron Sheik en 1984, Hogan a lancé l'ère Hulkamania, caractérisée par ses couleurs rouges et jaunes, un peu comme McDonald's.
Ah,
ses discours charismatiques promouvant l'entraînement, les prières et les vitamines et sa capacité à surmonter les obstacles. C'est un peu un self-made man, Hulk Hogan. C'est un homme. C'est le American Dream en personne.
Vraiment, ouais.
Hulk Hogan est devenu le visage de la WWF dans les années 80, contribuant à transformer la lutte en un divertissement grand public. Hogan a détenu le WWF Championship à plusieurs reprises au cours de cette décennie, entrant en rivalité avec d'autres légendes telles que Andre the Giant, oui, Randy Savage et le Ultimate Warrior. La carrière de Hogan n'a pas été sans controverse non plus, on va vous en reparler.
Hey, mais André de Giant, c'est bien un Québécois, hein, lui.
C'est un Français.
C'est un Français, OK.
Ouais.
Je me mélange toujours, je ne suis jamais sûr, OK.
Oui, je crois qu'il a habité au Québec,
c'est un peu ça, ceci dit.
Mais c'était un Français, il me semble.
Oui, oui.
André, son nom de famille, c'est Ferré.
Ah oui, André Ferré.
Exact.
C'est, oui, oui,
c'est
oui.
Le visage de OB, hein, de Shepard Ferry, l'artiste graffiti, André the Giant, d'ailleurs, entre autres. L'héritage de Hulk Hogan dans la lutte professionnelle est incontestable. Il a joué un rôle déterminant, il a influencé des générations de lutteurs et de fans. Sa capacité à se connecter avec le public et son charisme ont fait de lui une figure emblématique, non seulement dans la lutte, mais aussi dans la culture populaire. Il est apparu dans des films, des émissions de télévision, des publicités et autres, là. Au niveau de sa vie personnelle, parce que c'est un peu de ça dont il est question aujourd'hui, Hulk Hogan, il a deux enfants avec son ex-femme Linda, c'est en fait Brooke et Nick, ses enfants. Hulk Hogan a été le protagoniste de l'émission de télé-réalité « Le monde merveilleux de Hulk Hogan » qui mettait en vedette sa famille. La télé-réalité a duré 4 saisons, diffusée entre 2005 et 2007, là, dans le pic de ces télé-réalités-là où tout le monde en avait une. Travis Barker, les Kardashians, Bam Margera en avait une, Steve-O en avait une.
C'est vrai.
Donc, c'était un peu la Golden Age. Ozzy Osbourne en avait une
ça, je me rappelle. J'avais écouté un peu, ça.
Ben oui, c'est clair.
Mais Brooke Hogan avait fait un peu de musique. Elle avait tenté des trucs. Elle avait financé son album et tout ça. Je sais qu'il, justement, dans les sextapes, il en parle. Parce qu'on ne couvrira pas beaucoup ça, mais justement, il parle de ses enfants et tout ça. Puis comment il trouve que Brooke prend des mauvaises décisions puis qu'il regrettait d'avoir financé son album. J'ai même su que son fils Nick a eu un gros accident de voiture, puis souvent il alternait entre la prison et la liberté, donc il y avait des enjeux quand même
familiaux
ses enfants.
On va retourner maintenant au procès et vous allez voir, nous assistons à une succession de révélations et de témoignages étonnants qui bien souvent n'ont pas joué en faveur de Hulk Hogan.
Durant le procès, plusieurs déclarations et témoignages ont attiré l'attention, notamment ceux de Hogan lui-même et de Heather Clem, la femme apparaissant dans la vidéo avec lui. Parmi les moments marquants, il y a eu des discussions sur la distinction entre le personnage public Hulk Hogan et l'individu privé Terry Bollea, notamment en ce qui concerne la taille de leur pénis, un sujet abordé par Hogan lors d'un entretien avec Howard Stern.
Hogan a fait valoir que lorsqu'il parlait de la taille de son pénis dans l'émission de Stern, et ça, il a dit ça en cours, il se référait au personnage de Hulk Hogan, mais pas à Terry Bollea, soulignant la différence entre sa personnalité publique et sa vie privée. Puis ça, c'était un moment, je trouvais, quand même assez malaisant en cours. Là,
ah, vraiment?
Ouais,
c'est surréel aussi même.
Ça n'a pas de bon sens, là.
Tu sais, puis t'as... même avec Howard Stern, ce qui est troublant, c'est que, tu sais, le gars poursuit Gawker là, pour 100 millions, là.
Ouais.
Tu sais, 100 millions,
ouais,
c'est...
une grosse somme.
Ça a des impacts, là, dans la vie de quelqu'un puis d'une entreprise. Ça,
oui, oui.
C'est, ça va littéralement... Ça risque de faire fermer carrément Gawker.
Oui, oui.
Puis après, il est au micro de Howard Stern, mais il se la pète. Tu sais,
oui.
Il est là, puis tu sais, il parle de la taille de son engin, de comment lui, ça, tu sais, il y a des performances sexuelles et tout,
oui.
Ça, pas de problème. Donc là, tu sais, les gens se disent, OK, mais quel genre de dommage ça lui a fait si il va au micro de Howard Stern pour en reparler?
Ouais.
Là, Howard Stern, là, on se rappelle, à l'époque, c'est des dizaines de millions d'abonnés.
Oui, oui, c'était
lui,
beaucoup de monde,
lui aussi,
ouais,
était à son pic. Son contrat, à l'époque, c'était comme Joe Rogan,
oui,
maintenant.
Oui, oui, c'est vrai, c'est la radio satellite.
Là, t'es là, OK, mais là, il vient de se faire dommage à lui-même, là, Hulk Hogan, en reparlant, puis
ouais,
en reparlant, puis il y a encore plus de monde qui le savent. Là, donc
oui,
c'est,
t'as raison.
C'est ça qui est weird. Puis là, en cours, il nous dit que ce qu'il disait à Howard Stern, ben oui, oui, il braguait, il se vantait de la taille de son engin, tout ça, mais ah, il parle du personnage Hulk Hogan,
oui.
Mais Terry Bollea, lui, ah, il est profondément affecté là,
oui,
par cette vidéo-là, donc... Le procès va tourner autour de ça presque tout le long.
Oui,
c'est
oui,
vraiment
oui.
Malaisant.
Ah oui, t'as raison. Parce
entre
que...
le personnage puis l'homme.
Oui, exact. Puis c'est là que des fois, c'est justement ce qu'un peu la défense, je pense, essayait de faire. Tu sais, il en parle déjà dans la vie publique, tu sais, donc pourquoi on pourrait pas le montrer? Donc c'est un peu là-dessus qu'il était toujours questionné. Mais je te dis, si vous pouvez voir des extraits. Sur YouTube ou le documentaire No Speak, je crois.
Nobody Speaks.
Nobody Speaks, oui, exact, sur Netflix, entre autres, où on voit des extraits du procès ou qu'on le voit parler de ça, c'est tout de même assez malaisant. Sinon, il y a Heather Clam, elle, de son côté, dans le cadre du procès, heureusement, mais j'étais aussi mal à l'aise pour elle quand les gens sont obligés de venir témoigner pour une performance sexuelle qu'ils ont fait dans... Tu sais, elle est un peu, je trouve, le bouc émissaire là-dedans, là. Tu sais, c'était la blonde de Booba. Elle consentait pas à ce que la vidéo soit diffusée ou quoi que ce soit. Puis elle est obligée de venir témoigner en cours. Là. Donc ça aussi, c'est il y a une forme de malaise là-dedans, là, questionnée sur
oui,
ça.
On en parle trop peu de elle, en fait.
Oui, 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 puis t'as raison.
C'est peut-être elle la vraie victime dans cette histoire-là. Tu sais.
Oui, c'est vrai. Mais le pire, là, c'est que quand t'essaies de gratter, elle a dit que justement, elle veut pas en parler au procès, elle se limitait aux commentaires très, très stricts de la vidéo. Je pense qu'elle a vraiment voulu mettre ça de côté. Là, ils se sont séparés et tout ça. Donc, mais t'as raison, c'est elle, je trouve que c'est une des plus grandes victimes collatérales de cette histoire-là. Elle a pas touché d'argent, ou du moins, je pense pas,
mm-hmm.
ou quoi que ce soit, là. Dans un des extraits de la conversation privée qui a été rendue publique, Hogan exprimait son mécontentement à l'idée que sa fille Brooke puisse être en relation avec un homme afro-américain. Ses commentaires incluaient l'utilisation de termes et d'expressions racistes extrêmement offensants lorsqu'il parlait de cette possibilité.
Ah oui, c'est là qu'on se rend compte que c'est... Ah, finalement, c'est plus ça là, qui dérange, en fait. C'est que Hogan, ouais. dans cette... sextape un peu surréel va se laisser aller dans un presque un monologue
oui.
contre le chum de sa fille
exact,
là,
exact.
En utilisant le mot en haine
oui.
Vraiment puis là t'es là ah boy t'es là ok ouais c'est là que la vraie nature
oui.
ressort tu sais
oui,
puis
oui,
là
exact.
Le Hulk Hogan victorieux du stage tu te rends compte que c'est un espèce de redneck
oui.
tu sais
oui, blanc
raciste
oui.
Tu sais. Puis, OK, là, tu dis, OK, ben, c'est là le problème dans la vidéo, c'est ça qui te dérange, tu sais.
Ouais, t'as raison, hein, c'est vrai. Mais oui, puis c'est quasiment ça qui a eu le plus d'impact, d'une certaine façon, hein, sur lui. Là, vous allez voir, il y a eu d'autres impacts. Là. La révélation de ses commentaires a déclenché une vague là, de réactions négatives là, par rapport à ces propos-là là, qu'on vous répétera pas. En réponse à la divulgation de ses propos, la World Wrestling Entertainment, la WWE, a décidé de rompre tout lien professionnel avec lui. Imaginez l'impact. Cela incluait la suppression de sa présence sur leur site web, le retrait de ses produits dérivés, de leur boutique en ligne, son exclusion de la WWE, du Hall of Fame, en fait, de la WWE, pardon.
Elle a publié une déclaration affirmant qu'elle s'engageait à embrasser et à célébrer la diversité sous toutes ses formes. Hogan a par la suite présenté des excuses publiques pour ses commentaires, déclarant qu'il ne reflétait pas ou qui il est réellement et exprimant son regret pour les propos qu'il a tenus. Il a souligné que ses commentaires avaient été faits à un moment de grande détresse personnelle et qu'il ne les pensait pas véritablement.
Ouais, mais là, ça dépend qui est-ce qui a dit ces commentaires-là. Est-ce que c'est Hulk Hogan ou c'est Terry Bollea? Il peut facilement se promener entre une personne ou l'autre.
Exact. Il n'a pas trop joué là-dessus, mais on va y revenir un petit peu plus tard sur ça. Hulk Hogan a découvert aussi puis a été choqué d'apprendre que son meilleur ami, le Booba de Love Sponge, était au courant de l'enregistrement de sa rencontre sexuelle et qu'il ne lui en avait jamais parlé non plus. Donc, cette révélation est apparue comme une trahison pour lui parce que Booba, lui, avait juré de ne pas avoir connaissance de cet enregistrement-là. Le DJ, je vais vous parler un petit peu rapidement, là, c'est qui Booba de Love Sponge? Son vrai nom, c'est Todd Allen Clem, en fait, qui est un animateur de radio américain, connu pour son émission de talk show controversée et provocatrice. Sa carrière a commencé à la radio dans les années 80, puis il s'est fait connaître pour son style de radio choc-jock un peu, là, des discussions franches, souvent provocatives, offensantes, un peu à la Howard Stern, un peu, ils sont dans les mêmes styles.
Oui.
Il variait entre la politique, la sexualité et la société, par exemple. Donc, ce procès-là a vraiment mis sur la table vraiment un autre pan de Hulk Hogan qu'on voyait pas.
Exactement.
Je me demande si des fois il regrette pas, parce que tout ça aurait peut-être été resté peut-être plus anonyme sans la poursuite. Là.
Exact. Je vais vous parler un peu du côté de Gawker Media, en fait.
Oui.
Nick Denton et AJ Dolirio, qui sont le fondateur de Gawker Media et le rédacteur en chef au moment de la publication de la sextape, ont joué des rôles clés aussi dans le procès. Nick, lui, en tant que fondateur de Gawker, a défendu la décision de publier des extraits de la sextape de Hulk Hogan sur le site, de son côté, arguant que cela relevait de l'intérêt public et de la liberté de presse de diffuser ça. Donc, encore une fois, c'est une position un peu débattable. Denton a souvent souligné l'importance de la transparence du journalisme sans concession, principe sur lequel il a bâti l'empire médiatique de Gawker. Toutefois, lors du procès, cette défense s'est heurtée à la question de savoir où tracer la ligne entre le droit à l'information et le droit à la vie privée des individus. Denton a témoigné sur la philosophie éditoriale de Gawker, insistant sur le fait que la mission de l'entreprise était de publier des histoires que d'autres médias, par prudence ou par convention, choisiraient de ne pas publier.
Oui,
c'est un peu ça leur ligne éditoriale, dans le fond, c'est que si eux sont pas game de le faire, nous on est game.
C'est exactement ça.
AJ, qui est le rédacteur en chef, c'est lui qui a pris la décision de publier la sextape, il y a eu un témoignage particulièrement controversé durant le procès. Dans un moment largement médiatisé, Dolirio a fait une remarque en réponse à une question sur l'âge au-dessus duquel il considérait qu'une sextape ne devrait pas être publiée. Et ça, c'est une question tricky qui aurait peut-être pas dû répondre, je sais pas trop
mais
il s'est mis un peu le pied dans l'engrenage.
Exact, dans la bouche.
Il a suggéré de manière provocatrice qu'il ne publierait pas de sextape impliquant un enfant de moins de 4 ans. Donc, tu sais, cette remarque, bien que plus tard expliquée comme étant sarcastique et destinée à souligner l'absurdité de la question, a été fortement critiquée et a contribué à peindre une image négative de Gawker aux yeux du jury et du public. Donc, je comprends un peu sa remarque.
Oui,
tu sais, le gars, il est épuisé de se faire cuisiner de questions, tout ça. On lui pose une question comme ça qui est un peu... il aurait pu avoir une objection si ça se trouve à cette question-là parce que c'est presque pas en lien avec le cas principal.
Non, c'est des adultes.
Il a répondu un peu sarcastiquement, mais là, mauvaise réponse, body, là.
Oui, ça a joué vraiment contre lui, là. Ça s'est promené pendant un bout, quasiment accusé de pédophilie.
C'est ça, là, tu sais.
Non, ça l'a pas aidé à leur réputation.
Nous sommes maintenant 11 jours après le début du procès, le 18 mars 2016. Un jury de Floride attribue à Hulk Hogan un total de 140 millions de dollars en dommages, dont 115 millions à titre compensatoire et 25 millions pour dommages-intérêts punitifs, reconnaissant que Gawker avait violé la vie privée du lutteur en publiant sa sextape. Nick Denton, qui est le fondateur, exprime son optimisme pour l'appel en préparation malgré un verdict défavorable. Mais là, il y a une question qui a été soulevée par Gawker puis même par l'opinion publique. Qui est-ce qui paye pour cette défense-là de Terry Bollea? Oui. Parce que c'est des gros chiffres. Il y a des avocats vraiment, des avocats très, très agressifs dans ce domaine-là. Donc, on se demande, y a-t-il quelque chose en dessous de ça, tu sais? Donc, ce type de cause-là, qui dure plusieurs années, qui coûte très cher, on doute qu'il soit capable de se payer à lui seul, en fait, l'ensemble des frais juridiques. Donc, le 25 mai 2016, on apprend que Peter Thiel, qui est le cofondateur de PayPal, puis qui est un investisseur en capital risque, un multimilliardaire, là, et derrière, en fait, le financement de la défense, du procès de Hogan. Ainsi que d'autres procès intentés contre Gawker. Donc, Thiel a affirmé ça et il a qualifié son financement de l'une des plus grandes actions philanthropiques qu'il ait faites, en fait.
Exact.
Il a dit qu'il a dépensé environ 10 millions de dollars pour financer des poursuites contre Gawker.
Oui, exact.
Donc, c'est ça, c'est... Et là, vous allez voir, ça frôle la théorie du complot, puis ça frôle aussi... Il y a un débat vraiment éthique à savoir... Comment est-ce que les multimilliardaires peuvent s'impliquer dans des procès comme ça, là? Vous allez voir, c'est troublant tout ça, là. Peter Thiel a choisi de financer le procès pour plusieurs raisons personnelles. Il a été précédemment ciblé par Gawker en 2007 lorsque le site a révélé son homosexualité dans un article, un acte que Thiel a considéré comme une violation de sa vie privée.
Ouais.
Ce financement secret a été vu comme une forme de vengeance contre Gawker pour ses pratiques journalistiques que Thiel et d'autres ont critiquées comme étant intrusives et parfois nuisibles. Donc, c'est un peu une vendetta personnelle.
Oui.
Thiel a justifié son action en affirmant qu'il voulait aider ceux qui ne pouvaient pas se permettre de lutter contre de grandes organisations médiatiques. Il a vu dans le cas de Hogan une opportunité de se positionner contre ce qu'il percevait comme des abus de la part de la presse. Son implication financière a non seulement permis à Hogan de poursuivre son procès jusqu'à l'obtention d'un verdict favorable, mais elle a également ouvert un débat sur la capacité des individus fortunés à influencer la justice et sur les limites de la liberté d'expression dans le journalisme. Parce que ça peut avoir des drôles de conséquences,
tout ça. Oui.
Alors que certains y ont vu un acte de défense de la vie privée et de la dignité individuelle, d'autres ont critiqué cette démarche comme une menace pour le journalisme d'investigation et une preuve de la manière dont le système judiciaire peut être influencé par de puissants intérêts privés.
Oui, parce que c'est là que ça devient dangereux, tu sais, malgré tout. Puis là, on vous en a pas parlé, hein, mais des poursuites que Gawker avait à ce moment-là, là, il y en avait plein. Là.
Oh oui.
Il y en avait des stagiaires de Gawker maltraités, pas payés, toutes sortes de diffamations aussi, des articles, pas juste des sextapes, mais je veux dire, le nombre de poursuites qu'il y avait au-dessus de leur tête à ce moment-là, c'était fou. Même, là, on va parler un peu de leur fin, mais ils avaient vendu une part de leur entreprise, genre 10 millions d'actions, seulement pour payer d'autres poursuites et des avocats et tout ça. Donc, c'est assez incroyable. Même Peter Thiel, il dit, tiens, ils veulent même pas payer leurs stagiaires comme du monde. Il aime mieux aller en poursuite. Donc, on dirait qu'il y avait tout ça aussi. C'est pour ça qu'il a financé d'autres aussi poursuites. Pas juste la diffamation, mais il y avait des mauvais traitements avec leurs employés et tout ça.
C'est
une drôle d'entreprise aussi, là, Gawker.
Ah, carrément.
Donc, la suite et la fin là, pour Gawker, le 2 mai 2016, Hogan, lui, a tenté une autre action en justice contre eux, alléguant une extorsion autour de la publication de sa sextape. Charles Harder, là, qui est son avocat, Gawker ont répondu à la plainte en la qualifiant de ridicule, le fait qu'il abuse un peu du système judiciaire pour contrôler son image publique, parce qu'il n'y a pas eu de suite à cette nouvelle action contre Gawker, parce que dans le fond, ils sont morts quelques temps après. Donc, mais il a quand même tenté de refaire une autre poursuite contre eux au niveau personnel. Donc, c'est un peu étrange. Et le 10 juin 2016, Gawker dépose son bilan, ce qu'on dit le chapter 11, le chapitre 11, donc pour la faillite, après qu'un juge de Floride a rejeté une demande de suspension qui aurait permis à l'entreprise d'éviter de payer immédiatement le jugement de Hulk Hogan alors qu'elle travaillait sur un appel. Puis parallèlement à ça, la société lance une vente aux enchères supervisée par le tribunal. Donc, l'éditeur Ziff Davis, là, ZDNet, que vous devez peut-être connaître, est le premier enrichisseur et a conclu un accord de rachat d'actions pour au moins 100 millions de dollars. Donc, puis même juste pour savoir, là, Gawker a déjà été évalué dans son plus haut à 250 millions de dollars là, à l'époque. Donc, il rachète pour 100 millions. Le 1er août 2016, le fondateur Nick Denton lui dépose officiellement une mise en faillite personnelle pour empêcher Hulk Hogan de percevoir sa part du verdict du jury de 140 millions. Dans son dossier, Denton estime sa propre valeur nette entre 10 et 50 millions. Je trouve que l'écart est large. Il dirige également les efforts de Gawker pour vendre ses actifs dans le cadre d'une vente aux enchères qui était conseillée par le tribunal. Donc, les marques et l'entreprise qu'ils ont bâti sont dans une forme incroyablement solide, selon lui, là, quand il a envoyé une note aux employés avant la vente. Le 16 août 2016, donc un peu plus tard, c'est Univision Communication qui achète tous les actifs de Gawker pour 135 millions après avoir surenchéri sur Ziff Davis. Donc, finalement, ils s'en sortent pas si mal, si on veut, d'une certaine façon, mais ça fait faillite par la suite. Univision, qui supervise des publications comme The Onion, hein, qu'on connaît, ou Fusion, met fin au site Gawker après 14 ans, en tant que société indépendante. Encore une fois, Denton est content, il dit qu'il est content que ce soit cette entreprise-là qui rachète un peu tout ça. Mais finalement, ils ont fermé après 13 ans, quelques semaines plus tard, le site. Là, il n'y a plus de Gawker.com. Je pense qu'ils voulaient vraiment se débarrasser un peu de cette épine-là. Mais pour que vous sachiez, Gawker possédait Gizmodo, hein, qui existe encore, et Deadspin. Donc, ça a été... ça l'a tué, Gawker, là, tout simplement. Et en novembre 2016, Gawker accepte un règlement avec Hulk Hogan et deux autres plaignantes représentées par Charles Harder contre l'entreprise, en fait. Et il a dû quand même débourser 32 millions de dollars au final. Fait que Hulk Hogan, c'est à peu près ça avec l'autre personne qui ont touché au final. Il n'y a pas eu les 140 quelques millions là, parce qu'il y avait finalement, il n'y avait pas les moyens, parce que quand tu enlevais toutes les dépenses et tout, il n'y avait pas les sous pour ça. Et ça les a vraiment... Ça l'a vraiment tué l'entreprise complètement de Gawker.
Puis Hogan, lui, en fait, il a été réadmis dans la WWE par la suite.
Oui, exact. Parce qu'à cause de l'histoire du racisme, là, comme on vous disait, en 2018, après plusieurs années d'efforts pour faire amende honorable, il a fait des travaux communautaires, il y a eu des séances de sensibilisation sur les questions de diversité, là, donc il a dû faire de la formation. La WWE a réintroduit Hulk Hogan dans le temple de la renommée, a commencé à rétablir sa relation avec lui. Cette décision a été accueillie avec un sentiment quand même assez mitigé des gens là, dans l'industrie. On dirait que les gens ne veulent pas lui pardonner. Là, mm-hmm. Malgré tout ce qu'il faisait, ils trouvent que ça ne peut pas effacer complètement ses paroles. Écoute, je suis toujours un peu... tout le monde a le droit à une deuxième chance. Mais je peux comprendre un peu, peut-être une certaine amertume de personnes envers lui.
Oui, ben ça nous a exposé un peu l'envers du personnage, tu sais, puis
oui,
il y en a que pour qui ils vont être moins intéressés à le suivre là, suite à ça, tu sais, même si tu t'excuses puis que tu dis j'étais dans une passe difficile dans ma vie et tout ça, ben tu sais, tu viens quand même de faire un 5 minutes de blabla de racisme, tu sais, sans trop de subtilité là. Fait que est-ce que vraiment, si t'étais dans une meilleure période de ta vie, t'aimerais plus les noirs, tu sais, je sais pas.
Non, ça fonctionne pas.
Donc c'est un drôle d'argument, des drôles d'excuses, puis tu sais, en tout cas, ça a révélé une partie de, ça a brisé un peu le rêve du personnage à quelque part. Puis, mais ce qui est intéressant de voir, Seb, c'est de remonter un peu dans le temps, parce que l'histoire de sextape avec Hulk Hogan est assez hallucinante, parce que ça a eu des vraies conséquences. Il y a des gens qui ont perdu leur job, il y a eu une compagnie en faillite, mm-hmm. il y a eu des poursuites et autres. Mais ça n'a pas été le cas dans tous les cas des sextapes, et surtout pas dans un cas que je vais vous parler, qui est le cas de Marilyn Monroe, en fait, qui serait possiblement peut-être le plus vieux sextape. Et moi, je savais même pas, en fait, avant de faire de la recherche pour cet épisode-là, qu'elle avait apparu dans une sextape. Mais
moi non plus.
Mais vous allez voir, c'est assez intéressant aussi. Marilyn Monroe, hein, qui est l'icône absolue d'Hollywood dans les années 50, une icône de beauté, aurait été une pionnière aussi là, dans le domaine de la sextape, même s'il s'agit de rumeurs persistantes, je devrais dire, la concernant. De son vrai nom, Norma Jean Martenson, Marilyn était une actrice, une chanteuse, une modèle américaine qui est née en 1926 à Los Angeles et qui est décédée en 62. Elle est devenue une véritable symbole de la féminité et de la sensualité. Elle a joué dans plus d'une trentaine de films malgré sa jeune carrière et a reçu le Golden Globe de la meilleure actrice en 1960. Sa vie personnelle a également été très médiatisée, notamment en raison de ses mariages avec Joe DiMaggio, le joueur de baseball, et Arthur Miller. Sa mort aussi, elle a sorti avec le président Kennedy, bien évidemment. Sa mort, à l'âge de 36 ans, a été le sujet de nombreuses spéculations et les circonstances exactes n'ont pas été complètement élucidées. C'est un peu mystérieux encore, la mort de Marilyn. En 2008, Kaya Morgan aurait vendu une vidéo de Monroe pour 1,5 million de dollars, vidéo qui aurait été en possession du FBI depuis les années 60. Oui. Est-ce qu'on sait c'est qui Kaya Morgan, Seb?
On va le savoir un petit peu plus loin.
Son objectif à cette personne était de prouver que le partenaire de Marilyn était John F. Kennedy, dont tout le monde sait là, qu'elle a été la maîtresse. Ou encore son frère Robert, Robert Kennedy. Il ne sera jamais identifié. Kaya se vante d'avoir servi d'intermédiaire pour vendre la sextape qui était en possession du fils d'un ancien informateur du FBI à un collectionneur new-yorkais. Mais pour beaucoup, il aurait plus simplement inventé cette histoire pour s'assurer un joli coup de pub. Il a d'ailleurs sorti un livre sur Marilyn Monroe en 2019.
Hasard.
On trouve sur les sites pour adultes des termes comme « the 1.5 million dollar Marilyn Monroe sextape », mais la sextape en question, très peu probable qu'on l'ait trouvée jusqu'à présent sur le web. En juillet 2011, Michael Barta met aux enchères un court-métrage porno en noir et blanc. Il dure 6 minutes, il date de 1946 et il l'assure, la jeune femme qui se trouve en posture équivoque avec un inconnu est Marilyn Monroe, qui serait alors âgée de 21 ans. Personne n'achète le film. Des experts affirment que ce n'est pas elle et que la vidéo a probablement été tournée dans les années 70. Donc la vidéo existe, mais apparemment, il y a un débat à savoir si Marilyn est dessus. Là. Donc c'est beaucoup de légendes urbaines comme ça. En 2014 maintenant, un ancien garde du corps, en fait, William Castleberry, qui est un collectionneur aussi, annonce mettre aux enchères un film témoignant des ébats sexuels, encore une fois, de Marilyn Monroe avec les frères John et Robert Kennedy. Donc, une autre sextape les concernant qui aurait survécu aux années. Une mystérieuse vidéo qu'il aurait conservée de longues années par respect pour Joe DiMaggio, qui était le mari à l'époque de Marilyn, et dont lui seul assure l'authenticité. La vente aurait pu lui rapporter gros, surtout qu'il venait d'être condamné à 200 000 $ d'amende pour une vente frauduleuse. Donc, encore une fois, peut-être qu'il cherchait à renflouer son portefeuille. Mais la vente n'a jamais eu lieu. Il a miraculeusement pu régler sa dette la veille de la date à laquelle il devait tenir cette vente aux enchères et il a pu conserver sa précieuse vidéo. Donc, un peu un petit côté théorie du complot, là.
Oui, beaucoup.
Parce qu'il y a toujours des drôles de coïncidences. Mmh. Est-ce que, justement, le FBI aurait récupéré la bande magnétique ou autre? Ah, tiens, il y a eu un règlement avant que la vente aux enchères soit partie. Donc, qui sait, hein? Est-ce que ça serait peut-être simplement une légende urbaine ou peut-être que... la vidéo avec les frères Kennedy existe aussi, hein? Ça pourrait être leur genre aussi à cette époque-là.
Oui, ben oui, tout est possible.
Tordus comme ils étaient de s'être filmés.
C'est vrai, pareil, mais c'est ça qui est drôle. On dirait qu'il y a toujours le mythe qui reste, qui flotte autour d'elle. On dirait, vu que c'est une belle femme, on dirait qu'on voudrait que ça existe, mais tu sais, il n'y a aucune vraie preuve tangible de tout ça, mais les gens quand même vont dans les médias entendre des trucs, non? C'est fascinant.
Ah, mais pour ceux qui le veulent vraiment, je suis sûr que l'intelligence artificielle permettra permettra de voir des films de Marilyn.
Ah, ça, je me demande si ça n'existe pas déjà, hein, parce que quand tu vas voir, je fais une petite parenthèse deepfake, là, mais c'est rendu, tu tapes facilement le deepfake porno plus le nom de n'importe quelle comédienne, actrice connue, puis tu es presque sûr d'avoir une vidéo. Là, ça m'a troublé. L'autre fois, je fouillais là-dessus, là, puis il y a de plus en plus de sites de deepfake qui font on peut dire des fausses sextapes ou des faux films porno avec des actrices.
C'est problématique. Là,
c'est vraiment problématique.
Le cas de Taylor Swift aussi.
Exact, exact. Mais c'est rendu une proportion débile.
Parce que c'est beaucoup ça, les sextapes à l'ère numérique aussi. Hein, ça s'en va vers ça, le deepfake. Oui. On aura sans doute la chance de faire... Bon, on en a déjà parlé en masse, mais de peut-être faire un épisode là-dessus. Quelques mois, quelques années.
Je voulais vous parler aussi d'une autre personne qui était une forme de pionnier dans le sextape, en fait, surtout dans sa distribution. Et je vous parle de Seth Wachowski. J'ai toujours de la difficulté avec son nom de famille. C'est lui, en fait, qui est un peu à l'origine de la diffusion de la sextape de Pamela et Tommy, en fait. Aujourd'hui, on a choisi quand même de ne pas de détailler là, toute l'histoire là, de Pamela et Tommy. Il y a beaucoup de biopics, de documentaires et tout ça là-dessus. Mais dans toute cette histoire-là, moi, il y a un personnage qui a été quand même une forme de révolutionnaire de l'Internet, puis ça a un peu changé la donne au niveau de la consommation de contenu pour adultes en ligne, en fait. Je vous en parle un petit peu plus de lui parce que c'est un vrai pionnier de l'Internet. Seth Wachowski, il est né en 73. Comme je vous dis, il s'est distingué comme un pionnier controversé de la pornographie sur Internet. Il a fondé, lui, la Internet Entertainment Group, là, IEG, dans les années 90. Et à l'époque de la bulle Internet, il est devenu une figure emblématique dans l'industrie de la porno en ligne, capitalisant ce qui était alors l'un des rares segments profitables du web. Hein. La porno, ça a été quasiment rentable dès le jour 1, là, si je peux dire, sur Internet, même à cette époque-là.
J'en doute pas, on dirait que Internet a été créé pour la porno.
C'est quasiment ça. Puis même à l'époque, je me rappelle, il disait toujours que les sites porno étaient toujours un peu en avance technologiquement sur le streaming, sur certaines mêmes fonctionnalités de personnalisation du contenu, de tout ça, parce que évidemment, il y avait plus d'argent, donc il mettait les ressources pour offrir un produit pour les gens là, de haute qualité. Le 10 février 1998, il a même témoigné devant la commission du Sénat américain sur le commerce, sur les sciences et le transport concernant l'indécence sur Internet. Parce qu'en 98, c'est sûr qu'au Sénat américain, il devait un petit peu, être dépassé par toute la porno qui pouvait être disponible, même à cette époque-là. Là, puis ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. L'ascension d'IEG et de Wachowski a été fulgurante grâce aux bénéfices générés par une opération de téléphone rose, là, des téléphones érotiques, qui a lancé depuis un immeuble à Seattle, là, à Washington, dans l'État de Washington. Avec l'aide d'amis qui travaillaient chez AT&T, la compagnie de télécommunications, lui fournissait des numéros à caractère sexuel, donc des numéros avec des combinaisons qu'on pouvait... interpréter le chiffre. Donc, lui a innové en transformant un entrepôt en studio qui appelait le clublove.com. Là, c'était quand même un des premiers sites phares qui proposait. Puis ça, moyennant des frais, il y avait des spectacles érotiques en direct de faible résolution. Là, on peut imaginer les connexions de l'époque, préfigurant les services de camgirl modernes, en fait. Il a non seulement attiré l'attention des médias, il a figuré dans le Wall Street Journal en 1997, mais il a été également reconnu par le Times Magazine en 1999 comme l'une des 50 figures les plus importantes de la technologie. Cependant, sa carrière a été émaillée de scandales et de procès liés à la pornographie sur Internet. Justement, on peut trouver le procès autour du nom de domaine Candyland, ça je l'ignorais, contre Hasbro, hein, la compagnie de jouets. La distribution d'une sextape aussi artisanale de Pamela Anderson et Tommy Lee, c'est lui qui avait distribué ça au départ avant de prendre une entente avec eux, ainsi que divers autres litiges concernant des vidéos à caractère sexuel impliquant des célébrités, sans oublier le célèbre canular Our First Time, où il y a eu des photos de Lara Schlesinger. Elle, c'est une docteure puis une autrice américaine connue. Sa chute a été aussi spectaculaire que son ascension parce que malgré qu'il disait atteindre un chiffre d'affaires annuel de 100 millions de dollars avec plus de 100 000 abonnés sur ses services, il y a plusieurs personnes qui remettaient ça en doute, surtout lors du procès par Pamela et Tommy, qui ont vu leur vidéo diffusée là, sans leur consentement. Ils ont gagné un jugement de 1,5 million de dollars contre lui en décembre 2002. Le procès a non seulement marqué un tournant pour Pamela, mais ça a aussi changé un peu le monde de la jurisprudence, en fait, sur la distribution de contenu, la responsabilité de la distribution de contenu sur Internet. Parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune loi là-dessus. Hein, ça n'existait pas. C'était tout nouveau. Et ça a été fait un peu de manière cocky, tout ça. Mais bref, malgré tout, son audace a fait en sorte d'améliorer, d'amener l'Internet à ce qu'il est aujourd'hui. Je voulais vous parler d'une autre personne aussi dans l'univers des sextapes. Une autre personne qui est impliquée dans cette industrie-là, c'est un sextape broker. Puis il y a vraiment cette réputation-là, si vous tapez sextape broker, donc quelqu'un qui vend des sextapes, c'est Kevin Blatt, en fait, qui est un individu qui est impliqué dans beaucoup de sextapes de célébrités. Il est apparu comme intermédiaire, mais aussi maître chanteur. Là, souvent, il va menacer les gens de ça. Il s'est forgé une réputation en négociant divers sextapes, comme celui de Paris Hilton, Kim Kardashian. Même, il a voulu acheter les droits pour Hulk Hogan, Colin Farrell, qu'on ne vous a pas parlé, et d'autres sextapes. Son implication a suscité la controverse car il opère vraiment à la limite de la légalité. Une sextape, c'est rare que souvent on en prend possession puis on est autorisé pour ça. Souvent, les gens, ils abdiquent et puis aiment mieux acheter des droits que de toute façon rien à voir puis que la vidéo va être diffusée. Donc lui, il a été une forme de personne clé dans cette économie-là du sextape à Hollywood. Hein. Tu sais, dans la vie, je trouve que des fois, les opportunités en affaires et l'éthique, hein, c'est toujours un peu chambranlant. Donc, ça fait un peu le tour de ce qu'on voulait vous parler par rapport au sextape, mais j'en ai ressorti quelques-uns que je voulais quand même vous parler, mais honnêtement, si vous voulez voir la liste, là, il y en a tellement, là, il y a une couple de sites qui ont fait la liste par ordre alphabétique, puis c'est à se demander s'il n'y a pas une vedette qui en a pas eu, là, tu sais.
Exact.
Il y en a tellement, là, puis j'en ai extrait quelques-unes.
Kid Rock.
Oui, Kid Rock, entre autres, qui était... Oui, puis celle-là, je dois avouer qu'elle me fait un peu rire, parce qu'il était avec Scott Tapp, un des... je sais pas si c'est un bassiste de Creed, ou en tout cas, c'est... puis les deux, ils étaient en train de se faire gâter, je peux dire, par des groupies. Puis ça a été filmé. Mais ça, il a réussi, hein, il a poursuivi, il a gagné, il a réussi à la faire enlever d'Internet, puis j'ai eu de la difficulté, j'ai pas retrouvé, mais j'ai pas beaucoup cherché, mais lui aussi, il fait... Ouais, ouais. Oui, c'est ça. Lui aussi, il fait partie de ça. Kim Kardashian, hein, qui, malgré qu'on peut dire ce qu'on veut, à cette époque-là, n'était pas aussi connue que ça. Puis ça l'a aidé sa popularité quand elle a eu un sextape avec Ray Jr., là, qui était un joueur de football. Paris Hilton, hein, aussi. Étrangement que sa sextape a sorti quelques semaines avant le lancement de la série Simple Life, hein, la télé-réalité. Mmh. Des fois, même si elle a dit qu'elle a été très, très choquée de tout ça, elle a négocié puis elle touche de l'argent sur la sextape. Mais je pense que c'était vrai qu'au départ, elle ne voulait pas nécessairement que ça sorte. Mais c'est étrange, c'était son ex de l'époque. Je pense que c'est Rick Salomon, quelque chose comme ça. C'est lui qui a vendu lui-même les droits et tout ça. Sans vraiment demander son consentement. Là, il a fallu qu'elle revienne vers lui. Il y a eu R. Kelly. J'aime mieux... on va s'arrêter là aussi. R. Kelly, veut pas, ça reste, même si c'est des sextapes de mineurs, pédophiles, mais ça rentre dans cette catégorie-là. Après ça, Jennifer Lopez, Kanye West, etc. Il y en a eu vraiment, vraiment beaucoup. Je vous le dis, si c'est quelque chose qui vous intéresse, du moins comme curiosité, pas nécessairement de les voir, mais de savoir la liste, tapez « Celebrity Sextape List » puis vous allez avoir une liste exhaustive. Est-ce que vous, je serais curieux de savoir, moi j'en ai déjà vu, là, j'ai vu celui de Paris Hilton dans le temps que c'était sorti, celui de Kim Kardashian, mais on dirait que j'ai pas tant sorti de ce spectre-là depuis longtemps. J'étais plus jeune aussi quand c'était sorti, j'étais plus curieux, je peux dire. Là, on dirait que ça me tente pas. des voix, tu sais. Je sais pas si vous êtes curieux.
Ouais, puis je sais pas s'il y en a, des récentes, tu sais. Ouais,
oui, bonne question, ouais.
On fait référence quand même à une certaine époque des années 2000, tu sais.
Oui, c'est vrai.
On dirait que ces célébrités-là, Paris Hilton, la jeune Kim Kardashian à l'époque, mais il s'y doit en avoir encore, donc si...
J'imagine, hein.
Yes, s'il y en a qu'on a oublié, faites-nous en part. Mais c'était bien intéressant comme contenu spécial un peu Saint-Valentin, les Distordus. J'espère que vous avez aimé ça.
Oui. Puis,
dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous si il y en a qu'on a oublié ou en espérant que vous n'ayez pas été victime de ça. Parce que on en parle un peu en riant, on dirait, parce que c'est des célébrités.
Oui, mais
quelque part, il y a des vraies victimes derrière tout ça. Donc, vous savez où nous trouver, guys. On est un petit peu partout sur les réseaux sociaux, Twitter, TikTok. On est sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram aussi. Et on est sur Patreon, évidemment. Pour nos membres Patreon, Seb, on va avoir un after show après l'épisode d'aujourd'hui sur le célèbre Gate.
Oui.
Donc, on traite encore de scandales en lien avec des photos intimes de célébrités. J'ai bien hâte qu'on en parle tout à l'heure. Mais on ne pourrait terminer cet épisode-là sans donner un gros shout-out, un gros remerciement à nos membres Patreon.
Je donne beaucoup d'amour à CGL, Martin L, William D, Alec G et Catwoo.
Aussi, une bonne tape dans la main à Jade, à Josie M, à Alex B, à Maxime et à William GD.
Un gros remerciement à Jean-Simon R, à Phil F, à François, à Sébastien L et à Charlotte N.
Beaucoup d'amour en cette Saint-Valentin pour Océane, pour Émilie B, pour Sophie H, C, pour Patrick D et pour Caro B.
Un gros bisou à Adeline H, à Wick the Great, à Olivier G, Alissa B et Dan G.
On continue avec Maxime A, à Virginie C, à Chloé M, à Coralie S et à Mel S.
Beaucoup d'amour à Mélinette, à Crapulosaurus, Mouminus, Hugo V, Gamin 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 et Patricia L.
Je poursuis avec Nali, Carolina O, Marie B, Johan D et Alexandre L.
Merci Pierre-Olivier B, Chocapix, Laurence R, ton père, et Véronique IF.
Et pour terminer, une grande accolade à André-Anne L, à Ariane B, à Elisabeth M, à Fanny P et à Marie CG.
Est-ce que tu as un mot de la fin pour nous, Émile?
Bien sûr. Si vous désirez vous filmer, tentez de l'encrypter dans une voûte et d'activer le double facteur d'authentification pour la visionner. On n'est jamais trop prudent. Jamais.